peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans Nos Adorés. Je suis Julie Sigel et aujourd'hui je reçois Virginie Bouslama.
Bonjour.
Oui, Virginie va nous expliquer pourquoi elle est venue. Elle est venue pour nous présenter une association, mais aussi pour nous parler en tant qu'ado, en tant que parent, en tant qu'adulte aussi, hein, parce que voilà, des ados devenant des adultes, on ne se débarrasse pas forcément de nos particularités. Mais elle veut nous expliquer un peu des troubles un peu trop méconnus en France, et puis des fois qui font un peu peur, qui sont un peu tabous. Et donc, elle a monté avec d'autres personnes une association qui s'appelle l'association Typique Atypique, qu'elle va nous présenter aujourd'hui. Mais d'abord, comme le veut la tradition de cette émission, nous allons commencer. Virginie, avant même que tu nous parles de ton parcours, etc., tu vas nous dire quel ado tu étais. Voilà, donc c'est notre première rubrique.
Et maintenant,
c'est l'heure de la rubrique.
Et vous, quel ado étiez-vous ?
Alors, quel ado j'étais ? Bon, j'étais une ado cool, je crois. Mm-hmm. Enfin, faudrait demander à mes parents. Mais non, dans mes souvenirs, j'étais une ado heureuse, qui aimait la vie, j'étais très entourée, j'ai toujours eu plein d'amis, je n'ai pas eu de problème particulier, et je me suis éclatée comme une ado, et je pense que c'était une belle période, à part l'école. Mais
On verra pour la suite que ça a son importance ce que tu es en train de nous raconter, parce que ça peut faire un peu écho aussi
Complètement.
Voilà, à d'autres parcours. On se dit mince, là je me sens pas bien et tout. Toi tu as eu une adolescence top, alors que pourtant tu avais une particularité que tu as découverte plus tard.
Complètement.
On est en train de spoiler. Il faut pas.
Non, mais j'ai eu en fait une enfance extra, une adolescence. Enfin, moi j'ai des super souvenirs parce que j'ai évolué dans un cadre familial, faut le dire, très chouette.
Ouais, c'est important ça.
C'est très important, avec une maman, en plus institutrice, qui a une patience infini, donc ça, ça joue beaucoup. Un papa qui n'avait pas du tout de patience, mais bon, lui, de toute façon, on le voyait beaucoup moins. Mais en tout cas, avec des parents très, très chouettes, et on s'en rend compte souvent plus tard. Hein.
Après oui, quand on a la tête dedans, les ados, là,
c'est ça.
On sait que, voilà, des fois, vous dites, oulala, j'en aimerais d'autres, mais en fait...
Complètement. Ah ben, il y a aussi eu des périodes où je me disais, oulala, c'est nul, qu'est-ce que j'aimerais habiter ailleurs, les parents des autres sont mieux, comme pour tout le monde.
Moi, je pense finalement que c'est nécessaire, presque. Ben, remettre en question un peu ce qu'on va, voilà.
Mais de toute façon,
quand on a cette chance d'être dans une famille
complètement
chouette,
ça c'est clair, on est bien d'accord. Ouais. Mais effectivement, avec le recul et quand on écoute un peu ce qui se passe chez les autres, c'est à peu près la même chose partout. Enfin, moi aujourd'hui, mes enfants, c'est la même chose. Hein. Quand on les entend, chez nous c'est pourri, c'est nul, c'est jamais assez bien, c'est toujours mieux chez les autres, etc., etc. Mais en fait, ils ont énormément de chance. Bon, alors je leur rappelle, quoi. Je fais des petites piqûres de rappel.
Faire des petites piqûres de rappel.
Mais moi, oui, non, j'ai vraiment, honnêtement, je crois. Que des bons souvenirs. Enfin, j'ai vraiment pas à me plaindre. Mmh. J'ai manqué de rien, ni sur le plan affectif, ni sur le plan matériel. Ça, c'est une chance aussi. Mmh. Et du coup, ça aide.
Et du coup, ça t'a donné envie d'aider les autres.
Peut-être
non,
que c'est ça.
Je pense qu'il y a de ça aussi. Au-delà du fait que, voilà, on va comprendre pourquoi tu as créé cette association aussi, parce que c'était quelque chose qui te concernait personnellement, mais c'est quand même pas rien. Il y a quand même une différence entre aider ses enfants ou s'aider soi-même ou aider son entourage et monter une association pour faire connaître, etc. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu très rapidement de ton parcours, comment est-ce que tu en es venu à créer cette association? C'est surtout l'aspect associatif là qui nous intéresse.
Alors, j'en suis venue à créer donc Typique Atypique par rapport à mon parcours, justement. J'ai eu une enfance, une adolescence super. Bon, l'école, ça a été, mais bon, j'en ai pas forcément que des bons souvenirs. Mm-hmm. Et même si on me payait, j'y retournerais pas.
Dis ça pour les gens qui sont profs?
Non, pas particulièrement. Non, mais je me suis ennuyée. C'était compliqué de rester assise, enfermée. Enfin, des fois, franchement, je trouvais ça tellement glauque, long, ennuyant, triste. Enfin, bon, bref. Et puis, après, on n'a pas non plus toujours que des chouettes profs. Enfin, voilà.
Bien sûr.
Mais Finalement, je suis devenue maman, j'ai enchaîné, j'ai fait 3 enfants en 4 ans, parce que j'étais sûrement lancée, que j'avais envie, voilà, je me trouvais que c'était super chouette. Et puis, je me suis dit que de toute façon, j'allais faire mieux que mes parents, j'allais pas faire de la même manière, que ça allait être génial, qu'il y aurait aucun problème. Enfin voilà, on idéalise toujours. Et on pense pas du tout, éventuellement, à ce qui pourrait arriver de moins bien ou de négatif, voilà. Et puis, ben voilà, en fait, j'ai fait 3 enfants. Et puis, j'ai mes 3 enfants qui ne rentrent pas trop dans le cadre. Et puis, alors, avec mon aîné, dès son entrée à l'école maternelle, ça a été très, très compliqué parce qu'elle était beaucoup dans l'émotionnel.
D'accord.
Et c'était... moi, je ne comprenais pas, en fait. Moi, je suis beaucoup dans l'émotionnel, mais elle, c'était vraiment à des niveaux incroyables. Mm-hmm. Et en fait, ça a été le début des galères. Et donc, elle était mal sur le plan émotionnel. Les enseignants, ne comprenaient pas comment elle fonctionnait. Mm-hmm. Enfin bon, ça n'allait pas du tout. Et donc, en milieu de CE2, ça allait tellement mal que je me suis dit, je vais l'emmener voir une psychologue parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui.
Et donc, on a...
Jusque-là, beaucoup de parents se reconnaissent, je pense.
Je pense. Mmh. Et donc, du coup, j'ai emmené voir une psychologue contre l'avis de mon mari, qui lui trouvait que non, ça va bien, il n'y a pas de problème. Mmh. Mais bon, moi, quand ma gamine, je la trouvais dans sa chambre en train de pleurer. Et puis, le soir, elle n'arrivait pas à dormir. Et puis, elle posait des questions. Voilà. Et puis, on a fait des tests, on a fait un bilan. Et puis, le coup près est tombé. Et la psychologue m'a annoncé que... Mélina était à haut potentiel. Bon, moi, je tombais des nues.
Et toi, t'appelles ça un coup près, alors ? C'est pas une bonne nouvelle.
Alors, si, maintenant, je le vois comme ça. Mais le problème qu'on a, c'est que moi, ma gamine, à l'école, ça n'allait pas. Elle était finalement plus proche de l'échec scolaire, déjà en CE2, que de la réussite.
Non, parce qu'on fait l'amalgame entre haut potentiel et réussite
et
scolaire.
Et réussite, et le petit génie.
C'est souvent au contraire opposé.
Et voilà, tout à fait. Et donc, du coup, et puis elle était surtout très, très mal, mais vraiment, enfin, on revient de très loin. Elle somatisait, donc elle se rendait malade.
Ouais.
Mais à des niveaux, enfin, moi, au début, je me disais, c'est juste pas possible. Et donc, du coup, j'ai plongé un peu dans cet univers. Je me suis documentée, forcément, pour pouvoir l'aider et l'accompagner, pour aussi pouvoir informer. Mmh.
Comme beaucoup de parents, tu es devenue spécialiste, en fait.
Ah je suis devenue spécialiste. Mes enfants sont devenus aussi spécialistes, par la force des choses,
de
pas le
trouble.
Choix. Mm-hmm. Parce qu'il faut bien leur expliquer. Parce que quand un gamin, comme ça, est détecté à 8 ans, moi, ma fille, des fois, elle pleurait, elle me disait « Mais maman, tu vois bien que je ne peux pas être précoce, je suis nulle en classe. » Mais c'est horrible. Enfin, moi, je trouvais ça, mais ça m'a beaucoup touchée.
Ouais,
et j'avais déjà un peu du mal avec le cadre et le système scolaire, mais alors là, c'était double dose. Et puis, mon petit dernier, qui a 4 ans de moins, ça ne se passait pas super bien non plus. Lui, c'était plus des problèmes de comportement. Donc, dans la foulée, on a enchaîné, on l'a fait bilanter. Donc, le haut potentiel est tombé aussi. Mais lui, il y avait vraiment d'autres choses. Je me disais, il ne peut pas y avoir que ça.
D'accord.
Ma deuxième, ça allait à peu près, celle du milieu. Donc, on a laissé un peu de côté. Et finalement, on vivait à l'étranger. On est rentré en France il y a quelques années. On a continué les bilans. On a donc creusé les troubles, les fameux troubles associés à la précocité. Donc TDAH, 10, enfin, il peut y avoir plein de choses. Et donc, effectivement, mon petit dernier, il a un bon TDAH. Mes filles ont plus un trouble de l'attention à ma grande.
Est-ce que tu peux juste nous définir cet acronyme ?
Alors, le TDAH, c'est le fameux trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis, dans l'acronyme, n'apparaît pas l'impulsivité, qui est pourtant présente, et qui pose souvent problème. C'est l'impulsivité qui est très compliquée à gérer dans ce fameux TDAH.
D'accord.
Et du coup, en fait, on a beaucoup galéré. On a été dans l'errance médicale, on a cherché. Alors, on a eu de la chance, on est tombé vraiment sur tout de suite les bons professionnels à Strasbourg. Donc, on a finalement réussi quand même assez rapidement à avancer. Et quand on est... pas sorti de tout ça, parce qu'on n'en sort jamais, mais quand on avait mis en place ce qu'il fallait pour nos enfants, à un moment donné, quand je voyais un peu, parce que du coup, on rencontre d'autres personnes concernées.
Oui, on se rend compte qu'on est loin d'être seul. Hein.
Ah, on est loin d'être seul. Et quand j'entendais autour de moi, alors dans différents endroits, j'ai rencontré d'autres personnes, je me disais, mon Dieu, mais enfin, il y a tellement de souffrance, d'errance, de méconnaissance du sujet. Et puis donc un matin, comme je suis impulsive, comme je suis aussi concernée par ces particularités, un matin, il y a 3 ans, je me suis levée, c'était en mai, et puis en me levant, je me suis dit que j'allais créer une association pour aider les autres et pour faire avancer le sujet.
Chouette.
Et ça m'a pris comme ça, et j'ai embarqué donc une très bonne amie qui est donc la vice-présidente, et puis je l'ai vue l'après-midi même, je lui ai annoncé l'idée. Elle m'a dit, mais tu t'es sûre ? Je dis, non, mais il n'y a pas de problème. Alors, la seule difficulté, je ne sais pas si c'est le mot, mais moi, je voulais créer une association pour faire avancer les choses. Mais je n'ai pas du tout pensé à ce que ça impliquait, c'est-à-dire que le côté statut administratif, à tout ce qu'il fallait mettre en place, alors ça, moi, ça me passe au-dessus, parce que moi, je veux juste être dans l'action.
Et en définitive, tu es présidente, donc tu es bien dans l'administratif aussi, non ?
Ouais, c'est pas moi qui gère ça. On est un super binôme avec ma vice-présidente.
Ok.
Donc moi, je suis dans l'action. Et elle, comme elle dit souvent, elle, de toute façon, elle n'a pas envie d'aller au-devant. Elle n'a pas envie d'être sur la scène publique. Elle, elle est, comme elle dit, dans l'ombre. Et on se complète super bien parce que vraiment, effectivement, heureusement qu'elle
est là.
Mais il
y a des gens qui apprécient ça, hein, de faire tout ce qui est administratif.
Ben, ça m'arrange. Coucou Corinne, si je... Non, mais ça m'arrange parce que effectivement, on se complète vraiment à 100%. On est un super binôme. On a chacune justement notre place. On sait chacune ce qu'on a à faire. Après, on est au courant, bien évidemment, de ce que fait l'une et l'autre. Mais ça fonctionne à 100%.
Du coup, ce matin, toi, tu as invité quelqu'un.
Oui.
À nous rejoindre.
Oui.
Donc, on va essayer de l'appeler. Donc, c'est un neuropsychologue.
Un neuropsychologue, tout à fait.
Qui s'appelle Mathieu Chevassu.
C'est
ça. Et qui va un peu nous débroussailler tout ça, nous expliquer un petit peu, d'ailleurs aussi, comment lui, certainement, il prend en charge les ados et les adultes et les enfants, évidemment. Hein. Bien sûr, ça concerne tout le monde, mais comme c'est une émission un peu orientée ados. Qui va nous expliquer comment il prend en charge ces troubles. Donc, on peut citer un peu les troubles. Donc on a les troubles du spectre autistique.
Alors le TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Il y a donc le fameux TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et il y a les troubles 10, donc qui sont
pléthores, hein. Pléthoriques.
Il y en a pas mal, effectivement. Ouais. Et souvent d'ailleurs le TDAH dans la littérature rentre dans les troubles 10.
Très bien.
Puisqu'on parle un peu dans le TDAH de troubles de 10 exécutifs en fait.
Ouais, d'accord.
Mais voilà, ça c'est grosso modo les troubles principaux. Après bon, il y en a d'autres, hein, mais ça c'est les principaux qui sont souvent associés effectivement à un haut potentiel. Pas toujours, mais souvent.
Et ça commence donc nécessairement par un diagnostic ?
Alors, l'idéal, c'est de commencer par un bilan, ce qu'on appelle le WISC, donc qui est un bilan qui pose le QI, en fait, hein, mais qui vérifie différentes choses. Et ça, c'est vraiment, dans l'idéal, le point de départ. Et ensuite, une fois qu'on a fait le WISC, on a en fait des indications sur le profil cognitif de l'enfant qui permettent, ces indications, de se dire, bon, bah, peut-être qu'il faut creuser ailleurs.
Alors, donc, on reçoit Mathieu Chevassu, qui est neuropsy. Bonjour, Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Judaïka dans Nos Adorés. Donc, je suis Julie et je suis là avec Virginie, que vous connaissez,
oui.
Qui est donc la présidente de l'association Typique Atypique. Et on avait quelques questions à vous poser.
Ok, bah super. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation. Puis je remercie aussi Virginie, du coup, de m'avoir sollicité.
On est très heureux de vous recevoir. Très heureuse. Mais il y a Lucas, non. Donc, en fait, on doit rester sur heureux. Mais bon. Alors, je voulais savoir, en fait, c'est quoi votre rôle concret donc, dans l'accompagnement des enfants et des ados et même des adultes qu'on appelle atypiques ?
Alors, du coup, moi, en tant que neuropsychologue, donc, j'interviens dans une démarche qu'on appelle pluridisciplinaire, hein, c'est-à-dire en relation avec plusieurs corps de métier, donc que ce soit le paramédical, donc les orthophonistes, les ergothérapeutes, mais aussi le côté médical, donc les neuropédiatres, les pédiatres, les pédopsychiatres, mais aussi les psychiatres à l'âge adulte. Donc le rôle que moi je joue particulièrement dans le cadre de mon activité en libéral, c'est d'intervenir du coup dans l'évaluation et le diagnostic, donc dans le repérage de certains signes des troubles du neurodéveloppement, dont font partie le trouble du spectre autistique, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles des apprentissages. Donc ça passe par une évaluation clinique, donc c'est-à-dire on recueille des éléments que va nous rapporter le patient, qu'on va observer chez l'enfant, ou alors ce que l'adulte peut nous rapporter aussi par rapport à son développement ou les difficultés qu'il a actuellement.
D'accord.
En fonction de ça, on peut proposer des évaluations, hein, par exemple des évaluations psychométriques pour justement quantifier les difficultés.
Le fameux WISC, ensuite, là, dont on a parlé juste avant avec
c'est
Virginie. Très bien.
Okay. Et après, du coup, on peut proposer des prises en charge du coup, qui sont soit ce qu'on appelle la remédiation cognitive, donc c'est des prises en charge spécialisées qui vont intervenir sur des symptômes cognitifs, donc par exemple les troubles de l'attention, la gestion de l'impulsivité, l'hyperactivité, ou encore, par exemple, plutôt pour les jeunes enfants, de la guidance parentale, donc c'est-à-dire faire une forme de psychoéducation des parents, les rendre plus experts du fonctionnement de leur enfant et comprendre certains signes symptomatiques tels que l'hyperactivité et de l'attention.
On se disait oui qu'il était presque nécessaire de devenir spécialiste du trouble de son enfant et que l'enfant lui-même d'ailleurs soit acteur et aussi spécialiste de son trouble, ne serait-ce que dans le cadre de la sociabilisation. J'imagine qu'un enfant qui se sent à l'aise avec son trouble, qui le maîtrise, enfin je veux dire qui sait de quoi il parle, il peut aussi peut-être plus facilement l'expliquer aux camarades ou même, bon, pas forcément aux adultes parce qu'ils ne sont pas toujours forcément écoutés, mais je veux dire... Voilà, un enfant doit connaître, doit savoir ce dont il souffre, entre guillemets. C'est ça?
Oui, bah c'est ça. Après, comme l'avait dit, c'est sur la scène du foot Normandie, le psychiatre explique très souvent ces différentes problématiques par rapport au TDAH. Et là, il avait fait une vidéo récente justement sur le fait que parfois, même le fait de comprendre et d'avoir la connaissance de son trouble, de ses difficultés, parfois c'est pas suffisant pour pouvoir le gérer. Et c'est là aussi
c'est deux choses différentes.
Démarches de soins, voilà.
Bien
Donc
sûr.
C'est vrai que ça fait partie du package, on va dire, à avoir, c'est que ces connaissances, mais c'est vrai que ça va pas faire le tout.
Et après, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Surtout pas tout petit. Ils sont pas capables. Ils ont peut-être pas la maturité non plus pour.
C'est exactement ça. Oui. D'où l'idée d'un repérage précoce qui est assez important. Alors l'idée du repérage précoce, c'est pas non plus de tout de suite catégoriser ou classer un enfant dans une catégorie diagnostique et dire cet enfant a telle étiquette. Pas du tout ça. Le but, c'est plus de repérer au plus tôt du développement des fragilités qui permettraient ensuite de prévenir des risques dans le développement à l'âge scolaire, à l'adolescence, pour justement éviter qu'il ne se développe ce qu'on appelle des comorbidités. C'est en fait des troubles autres qui vont venir se greffer comme ça.
Comme le trouble anxieux, la dépression, etc. Ça, ouais, vous en occupez aussi, alors j'imagine.
C'est des éléments, en fait, quand on s'occupe de l'accompagnement d'un enfant ou d'un adulte, peu importe, on est dans une démarche qu'on appelle systémique. Mm-hmm. Donc, c'est un terme technique qui veut simplement dire que l'individu, on ne le voit pas comme un symptôme, comme une personne qui a un déficit d'attention. C'est plutôt voir, en fait, la place de la personne en relation avec son symptôme, mais en relation aussi avec son environnement. Que l'idée, c'est que quand on prend en charge une personne, quelle qu'elle soit, quel que soit son âge, mais d'autant plus chez l'enfant, si on agit seulement sur les symptômes de l'enfant et qu'on n'encourage pas l'environnement, donc c'est-à-dire l'école, la famille, donc tout l'entourage qui va être à proximité de l'enfant à ces choses-là, et ben ça, en gros, ça sert quasiment à rien puisqu'on va traiter quelque chose. Et finalement, quand l'enfant va revenir dans son milieu, il y aura de nouveau les mêmes comportements qui vont être mis en place, les mêmes remarques par exemple, et ça peut desservir en fait tout le travail qui va être fait individuellement avec l'enfant.
Et justement, comment on peut rassurer les ados qui se disent peut-être là en nous écoutant, ah tiens, moi j'ai peut-être des petites choses comme ça où j'ai l'impression d'être différent, etc. Et il n'est jamais trop tard pour agir, on est d'accord?
Non, bien sûr. L'idée de toute façon des troubles du neurodéveloppement, ça peut passer sous silence pendant un certain temps. Mmh. Il y a ce qu'on appelle la compensation.
C'est ça.
Certains profils qui vont avoir soit des compétences cognitives ou intellectuelles qui sont importantes et qui vont compenser des difficultés d'attention et qui fait qu'à partir du lycée, du collège, du lycée, comme ça, des difficultés commencent à apparaître parce que la charge mentale, donc c'est-à-dire les attentes qu'on va avoir sur l'adolescent en termes d'attention, en termes d'organisation, ils vont se heurter à ces difficultés-là.
D'accord.
Et c'est là où certains profils d'adolescents peuvent ressentir des difficultés, de l'anxiété et avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Parfois, on peut même être proche du phénomène de burn-out, parce qu'on sait que dans certains troubles, notamment le TDAH, il y a un lien assez important avec le développement d'un burn-out.
Mm-hmm.
C'est des éléments à avoir en tête. Et effectivement, dès qu'il y a une interrogation par rapport à cela, c'est d'aller consulter son médecin généraliste, les professionnels de première ligne, c'est-à-dire les psychiatres, les psychologues, pour pouvoir justement apporter des éléments de réponse à ce niveau-là. Et ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que finalement, il y a une vision très diabolique un peu autour de consulter un psychiatre, consulter un psychologue. On a souvent dans l'inconscient collectif le fait de se dire « mais je suis pas fou, je peux pas ». Alors qu'en fait, on n'est pas du tout à ce niveau-là. Vraiment, le psychiatre, le psychologue, ça va être... Les choses ont globalement évolué. On est plutôt dans une perspective où on va essayer de comprendre ce qui se passe pour pouvoir apporter des pistes et des réponses à ces personnes qui ressentent des difficultés.
Oui, et puis un mal-être global souvent. Après, il faut aussi dire, et moi là je parle en tant que parent, et je pense que peut-être Virginie me dira la même chose, on a du mal aussi par rapport aux au corps enseignant finalement à venir et à dire voilà, tel diagnostic a été posé, donc il faut faire tel aménagement pour mon enfant ou pour mon ado. Quelque part, on a l'impression finalement qu'on va les stigmatiser, nos ados, et notamment je le vois, parce que moi je suis prof au lycée, je le vois à l'approche des examens, il y en a beaucoup qui me disent ah ben non, moi je veux pas mon tiers-temps, j'ai pas envie de me différencier, j'ai pas envie qu'on sache qu'eux, etc. Donc il y a aussi une certaine pudeur comme ça qui se met en place. En tant que parent, en tant qu'ado, c'est difficile. Donc qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes qui auraient droit à ça, au tiers-temps, plus de compréhension, j'en sais rien, et qui ne souhaitent pas en bénéficier? Qu'est-ce qu'on peut leur dire?
Bah, c'est vrai qu'en fait, au niveau de tout ce qui est recommandations, tout ce qui est adaptation, donc là, on est plutôt sur des techniques d'adaptation de l'environnement par rapport aux difficultés, donc proposer un tiers-temps, proposer l'ordinateur en classe, etc. Ouais. Donc c'est vrai que le plus souvent, c'est des choses qui, pour nous, en tant que professionnels, on dit « Ah ben c'est ça la réponse à la situation ». Alors c'est vrai que là aussi, dans ce côté très systémique de prise en charge des personnes, bah, il faut aussi s'interroger dans la manière dont la personne va vivre ses aménagements. Parce que c'est vrai que
être visible, ça peut être vécu plus difficilement finalement encore.
C'est ça. Donc des fois, en fait, il y a certains aménagements qui vont pouvoir desservir l'adolescent ou l'enfant en question, parce que justement, par exemple, proposer une AVS, proposer une auxiliaire de vie scolaire, donc on appelle maintenant AESH, qui vient aider l'enfant dans ses apprentissages à se concentrer, à reformuler certaines consignes, ça peut être vécu comme stigmatisant par les enfants, justement parce que ça peut générer de la moquerie dans certains contextes. Et c'est vrai que du coup, ça peut justement aussi déclencher des éléments de l'ordre de l'anxiété. Donc finalement, il faut être, aussi assez prudent dans la mise à place de ces aménagements-là, sachant que c'est des choses qui sont importantes, hein, qui permettent aussi du coup à l'enfant de bénéficier d'une scolarité adaptée et d'avoir toutes ses chances dans ce cadre-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui doit se discuter du coup avec les enseignants, avec les professionnels, avec l'enfant et les parents. L'idée, c'est toujours ça, c'est toujours d'avoir la communication la plus libre, la plus efficace possible entre tous les acteurs qui
prennent en charge l'enfant. Mais il y a tellement d'acteurs que parfois ça dépend vraiment aussi de l'équipe pédagogique, de l'établissement. Oui. Oh là là, ça devient dantesque. Et je sais qu'il y a certains parents qui se retiennent en fait de vraiment mettre des choses en place parce qu'ils se disent « Ouh là là, après, je vais mettre telle personne à dos, donc il y a un effet domino. » Enfin voilà. Et c'est vrai que c'est important qu'on communique là-dessus et qu'on dise « Voilà, quand il y a des préconisations, essayez, avec l'accord de l'ado ou de l'enfant, de mettre les choses en place. » Effectivement, il faut qu'il valide les choses, parce que si c'est pas validé de son côté, oui, ça risque d'être improductif en fin de compte.
Oui, c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir en bénéficier, mais tout en ayant ce côté. De toute façon, l'idée, c'est toujours, c'est comme Virginie le dit très souvent, c'est ce côté très bienveillant et ce côté très compréhensif qu'il faut justement essayer de développer que ce soit dans la scolarité ou dans le quotidien.
Et puis aussi, oui, d'où l'intérêt aussi d'une association comme la tienne, Virginie, parce que ça permet aussi de voir qu'il y en a d'autres qui sont dans la même galère, en gros, et que la galère, elle peut aussi se transformer en jolie chose. Hein, je veux dire, être particulier, je pense que c'est aussi une chance.
Bah, c'est une richesse, c'est une chance. Et puis, on est de toute façon tous différents. Après, effectivement, on est tous différents, mais il y a des personnes qui ont des petits plus encore. Mais effectivement, l'association, c'est aussi pour accompagner et soutenir les familles, pour expliquer, pour communiquer. La communication, c'est hyper important, faire passer l'information. Et là, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, notamment avec l'éducation nationale, dire que voilà, oui, ce sont des enfants qui ont une étiquette, mais en même temps, c'est le système un peu qui nous force à mettre ces étiquettes. Hein, parce que
on demande la même chose à tous les enfants et tous les ados, donc c'est normal que certains soient...
Et de toute façon, qui dit pas d'étiquette dit pas d'aménagement. Alors,
pas de bras, pas de chocolat, quoi.
C'est ça. Et puis voilà. Par rapport, en effet, à la mise en place de tous ces aménagements, c'est vrai que pour certains, c'est compliqué. Il y a des gamins qui n'en veulent pas. Donc ça passe, comme disait Mathieu, par vraiment une bonne communication, des échanges, expliquer, détailler et trouver un terrain d'entente.
Oui, c'est ça. Bah, merci Virginie, acteurs. Merci Mathieu. Mathieu, on va te retrouver. Je te tutoie, moi, carrément. Je me suis dit, allez, on y va.
Il n'y a pas de problème, c'est bon.
J'ai l'impression d'être jeune quand je tutoie des gens. On se tutoie entre nous, quoi.
Tu es jeune.
Oui, en quelque sorte.
Merci.
Donc, en fait, je disais que là, on arrivait à la conclusion de la première émission et que toi, tu allais intervenir également, Mathieu, dans la seconde émission. On va vraiment se consacrer au TDAH ou pas, ou H ou pas H, on ne sait pas. Et qu'on avait des questions d'ado pour toi, qui sont assez intéressantes. Donc, on se dit au revoir et puis on te retrouve dans une seconde émission. Merci pour ton intervention. Merci, Virginie, pour ton intervention. Merci. Et à bientôt pour la suite.
Ça marche. À bientôt.
Au revoir à tous.
À bientôt.
Au revoir.
C'est pas grave. incroyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,